La Compagnie des Œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Quand Voltaire meurt en mai 1778, il est devenu l'écrivain le plus célèbre d'Europe. La Révolution va le fêter et ses cendres seront transférées au Panthéon en 1791. Sur le sarcophage dans lequel on l'y conduit, ces mots, il vengea Calas, Labarre, Sirvin et Montbailly. C'est en effet un nouveau type d'homme de lettres que l'on célèbre alors, celui que l'on désignera près de 100 ans plus tard sous le vocable d'intellectuel. Ces hommes et ces femmes qui tentent de peser sur les décisions politiques en même temps qu'ils cherchent la célébrité et l'épanouissement de leur art. Alors nous avons détaillé la vie de Voltaire au cours de notre premier épisode. C'est François Jacob qui nous a raconté l'embastillement, l'exil en Angleterre, l'amour pour Émilie du Châtelet et nombre d'autres choses encore dans une émission à retrouver évidemment sur l'appli Radio France. Et puis c'est de l'œuvre dont il a été question dans le second numéro de cette série. Pas de toute l'œuvre évidemment, mais en particulier des contes et de Candide plus spécialement, analysé pour nous par Christophe Martin. Et puis demain, nous terminerons notre cycle avec Richard Flamaine, qui nous parlera des années de Voltaire à Ferney durant la fin de sa vie, où le polémiste, philosophe et écrivain s'est aussi fait entrepreneur. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour évoquer l'encyclopédiste et l'intellectuel des Lumières qui était Voltaire, nous sommes en compagnie d'Olivier Ferré, professeur à l'Université de Lyon, spécialiste de la littérature polémique du 18e. On lui doit par exemple le livre « Voltaire dans l'encyclopédie » publié en 2016 aux éditions de la Société Diderot à Langres, mais aussi la direction du numéro 18 de la revue Voltaire sur le compagnonnage de Voltaire et d'Alembert. Et puis il a donné aussi aux éditions une édition des Lettres philosophiques de Voltaire avec Anthony Mackina. Ça, c'est aux éditions Classique Garnier. Allez, bienvenue à tous, voici la Compagnie des Œuvres.
Il y avait une grande querelle dans Babylone qui durait depuis 1500 années et qui partageait l'Empire en deux sectes opiniâtres. L'une prétendait qu'il ne fallait jamais entrer dans le temple de Mithra que du pied gauche, l'autre avait cette coutume en abomination et n'entrait jamais que du pied droit. On attendait le jour de la fête solennelle du feu sacré pour savoir quelle secte serait favorisée par Zadig. L'univers avait les yeux sur ses deux pieds et toute la ville était en agitation et en suspens. Zadig entra dans le temple en sautant à pieds joints. Et il prouva ensuite, par un discours éloquent, que le Dieu du ciel et de la terre, qui n'a acception de personne, ne fait pas plus de cas de la jambe gauche que de la jambe droite.
Bonjour à vous, Olivier Ferré.
Bonjour.
Est-ce qu'on n'a pas là, avec cet extrait de Zadig ou la destinée, qu'on entendait en introduction lu par Guillaume Gallienne, une sorte d'autoportrait de Voltaire comme modèle au fond de l'homme éclairé, de l'homme des Lumières?
Indéniablement, la figure de Zadig, c'est une figure de philosophe. Et on retrouve dans le passage qu'on vient d'entendre beaucoup d'éléments qui sont évidemment centraux dans la pensée de Voltaire et dans son mode d'action.
Comme par exemple
Par exemple, justement, cette idée des superstitions qui s'attachent à des rites, le rentrer du pied gauche ou du pied droit. Bon, il y a aussi cet effet de réduction binaire un peu comique, censé mettre l'accent sur la futilité de ces rites, mais aussi leur absurdité, le traitement même de cette réduction binaire montre aussi l'absurdité de la chose, mais ce qu'on entend aussi, c'est que il y a aussi quelque chose de dangereux dans ces rites, parce qu'ils forment des sectes. Le terme, on parle de querelles, on nous parle de sectes qui se divisent, et de dérives potentiellement sanglantes. Et donc la figure de Zadig, justement, par cette sorte d'apologue, ici on a un texte qui frise avec l'apologue, met en scène justement cette figure du philosophe qui est réconciliateur, qui est pacificateur, et qui, de ce point de vue-là, un peu plus loin, il est question du style de la raison. Mm-hmm. C'est le style de la raison du philosophe, et de ce point de vue-là, on peut considérer effectivement que Zadig est une sorte d'emblème du philosophe.
Et donc que Zadig, c'est Voltaire ?
Zadig et Voltaire, je ne ferais pas ce mauvais jeu de mots, mais il y a effectivement une part de projection de Voltaire dans ce personnage.
Alors pour ses contemporains, Voltaire c'est le symbole des Lumières, tout incite finalement à en faire le modèle des Lumières, que ce soit ses combats, même son vocabulaire, ses dénonciations de l'injustice. Mais qu'est-ce qui au fond, pour vous, le rattachait réellement aux Lumières ?
Alors, c'est une vaste question, parce que déjà il faudrait s'entendre sur ce qu'on peut entendre par Lumière. Mon directeur de thèse, Pierre Retta, disait que c'était un concept éteignoir, ce qui était assez amusant. Si on considère que les Lumières sont un ensemble cohérent d'idées ou de valeurs, effectivement, on peut dire que Voltaire incarne ces valeurs-là, le pouvoir de la raison, la liberté d'expression, la tolérance. Si on considère aussi que les Lumières, c'est aussi un projet qui est destiné à mettre en œuvre ce programme, c'est-à-dire la lutte contre l'obscurantisme, contre les interdits de pensée, contre l'intolérance. Dans ces cas-là, on peut effectivement voir en Voltaire une sorte d'incarnation de cette définition-là des Lumières. C'est peut-être pas la seule. En tout cas, c'est peut-être pas celle qu'on doit retenir aujourd'hui, mais en tout cas, si on entend les Lumières comme cet ensemble d'idées, de valeurs, Voltaire en est évidemment l'incarnation.
Et quelles seraient les autres Lumières possibles ?
Je fais implicitement référence à un ouvrage assez récent d'Antoine Lilti qui s'interroge justement sur l'héritage des Lumières et qui met en garde, dans une certaine mesure, contre un effet de totem. Dire que les Lumières, c'est cet ensemble de valeurs, cet ensemble d'idées, c'est potentiellement assez champ, et lui préfère voir dans les Lumières un mouvement intellectuel, caractérisé aussi par les débats qu'il travaille, par la polyphonie qui le caractérise, par son caractère réflexif. Et il me semble que de ce point de vue-là, Voltaire aussi est un très bon exemple de ce que c'est que ce mouvement intellectuel des Lumières.
Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi sortir des frontières françaises et penser à l'Aufklärung, parler peut-être de la philosophie de Kant, de sa critique de la raison pure ?
Et puis le texte fondateur de « Qu'est-ce que les Lumières ?» mm-hmm. qui définit justement les Lumières par leur pouvoir émancipateur. Et de ce point de vue-là, tout le travail critique auquel contribue Voltaire, c'est bien sûr pas le seul, tout à fait déterminant pour essayer de comprendre ce que c'est que ce geste émancipateur des Lumières.
Donc les Lumières, c'est pas seulement l'anticléricalisme, c'est pas seulement la laïcité, l'idée de la tolérance. Finalement, les Lumières, c'est bien davantage que cela, Olivier Ferré.
C'est assez profondément un exercice critique. Et de ce point de vue-là, on a un peu tendance à réduire Voltaire à une liste de propositions. Mais ce qui est intéressant dans son œuvre, et ce qui fait qu'elle est toujours passionnante à étudier de nos jours, c'est précisément en ce qu'elle met en crise un certain nombre de certitudes, d'idées reçues, y compris dans ce qu'on a pu totémiser, si vous me passez le néologisme, totémiser sous l'étiquette Lumière.
Ouais. Alors il n'a pas fait quand même l'unanimité de son temps, Voltaire. On peut même dire que c'était un personnage assez irritant. Ses espiègleries, son art de dissimuler ont bien souvent lassé aussi Olivier Ferré.
Oui, c'est quand même le plus grand écrivain français de l'Europe, indéniablement. Il est célébré pour ça, mais évidemment il a des adversaires. Et il a des adversaires personnels, il a aussi des adversaires, on va dire, de partis ou de clans. En la personne de tous ces anti-philosophes qui ne cessent de brocarder les philosophes en général et Voltaire en particulier, qui est perçu comme une sorte, en tout cas au début des années 1760, comme leur tête de turc. Et leur tête de turc par la même occasion. Il y a un pamphlet contre Voltaire qui s'appelle l'oracle des nouveaux philosophes, ce qui dit d'une certaine manière ça lui vaut un titre de gloire, c'est le chef de file, mais c'est aussi celui sur lequel on va taper avec prédilection.
Oui. Alors il y a les anti-philosophes qui lui tapent peut-être un petit peu dessus d'un côté, et puis de l'autre il y a aussi ceux qui trouvent qu'il ne va pas assez loin, qu'au fond il est extrêmement modéré et qui professent un matérialisme qui soit vraiment sans concession.
Alors il y a effectivement, mais ça c'est, l'histoire est un peu évolutive, là c'est effectivement la contestation de Voltaire n'allant pas assez loin, date plutôt du début des années 1770, où effectivement se constitue un groupe autour de Diderot, autour du baron d'Holbach, de matérialistes athées qui trouvent que le patriarche de Ferney, puisque c'est aussi à cette époque-là qu'on l'appelle comme ça, le patriarche est un peu gâteux, en tout cas il va pas assez loin dans les propos du côté du matérialisme, du côté de l'athéisme.
Puisqu'on peut lui reprocher, et ce qu'on ne manque pas d'ailleurs de lui reprocher à l'époque, c'est que la vision des Lumières de Voltaire est un petit peu teintée de bourgeoisie, parce qu'il croit au progrès, certes, mais il croit aussi un peu à l'ordre. Alors, est-ce que ces Lumières-là qu'il professe, ce sont les Lumières pour tout le monde, ou est-ce que c'est quand même les Lumières pour une certaine élite déjà émancipée ?
Alors, ce qui est sûr, c'est que il y a chez Voltaire une croyance, on peut dire, que les Lumières viennent d'en haut. Il le dit sous différentes formes dans ses textes. Les Lumières viennent d'en haut, c'est-à-dire des grands. Ce qu'on lui reproche aussi, c'est une sorte de complaisance à jouer avec à se concilier les figures de pouvoir, parce qu'il est intimement convaincu que les Lumières, on peut les imposer du haut.
Il y a un côté premier de cordée chez Voltaire.
Oui, en un sens, oui. Alors, en tout cas, il y a cette idée il y a aussi une géographie imaginaire de l'Europe éclairée. Les Lumières viennent d'en haut, des grands, mais viennent aussi du nord. Et de fait, il y a donc ce qu'on peut, on peut lui, on peut, on le perçoit sans doute à juste titre comme un peu bourgeois ou plutôt seigneur de village. C'est plutôt le seigneur de village avec une certaine dimension paternaliste qu'on peut pas nier, avec une extrême méfiance dans le cadre d'un débat qui est d'ailleurs transversal au XVIIIe siècle, qui est-ce qu'il faut éduquer le peuple? Est-ce qu'il faut éclairer le peuple?
Alors, qu'est-ce qu'il en pense?
Jusqu'où peut-on le faire? Ce qu'il en pense, les discours sont assez contradictoires, mais en tout cas, c'est pas le seul à se casser le nez sur ces questions-là. Il y a une sorte de hantise chez Voltaire de la populace fanatique. La populace non éduquée, la populace superstitieuse, qui est donc potentiellement fanatisable, et qui, dans la façon dont il raconte l'affaire Calas, par exemple, il y a ce rôle de la rumeur amplifiée par la populace qui constitue indéniablement un objet de crainte.
L'infâme superstition doit être abandonnée aux laquais et aux servantes, écrit-il à D'Alembert en 1765.
Voilà, par exemple. C'est un exemple assez révélateur aussi d'une certaine méfiance, sinon de mépris de classe, mais une certaine méfiance à l'endroit justement d'une populace qui un peu dans l'ignorance
et qui lui fait peur sans doute
et qui est potentiellement dangereuse, oui.
Et en même temps, il prend fait et cause pour les ouvriers, pour les paysans quand il y a des cas concrets qui se présentent à lui.
Bien sûr. Bien sûr, c'est un entrepreneur aussi. Ce qu'il réalise à Ferney, c'est aussi, il organise des manufactures, il fait travailler des horlogers. Donc, il prend aussi la fait et cause aussi pour des paysans qui seraient victimes justement de de leur maître. Enfin, de ce point de vue-là, il y a effectivement une pensée sociale, mais qu'on pourrait quand même, enfin, il me semble, qualifier de un peu paternaliste.
La Compagnie des Heures, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Tu m'as dit pas de aller prendre les choses. Tu m'as dit.
Vous écoutez La Compagnie des Heures sur France Culture et nous parlons de Voltaire et les Lumières avec vous, Olivier Ferret. Des Lumières et aussi des anti-lumières, je crois que vous voudriez nous dire un mot là-dessus, sur ces adversaires des Lumières. Qui sont-ils À qui pensez-vous en particulier?
Alors, il me semble qu'on ne peut pas vraiment comprendre les textes des philosophes des Lumières sans se prendre en considération le point de vue de leurs adversaires. Ça, c'est une idée que j'avais assez fortement défendue dans ma thèse de doctorat. Ces philosophes aussi écrivent en réaction contre un discours qui leur est opposé, et donc ces anti-philosophes, puisqu'on les appelle comme ça à l'époque aussi, qui se définissent aussi en réaction contre certaines caricatures qu'ils font des philosophes. Alors, ce sont des gens qu'on a de nos jours oubliés. Je prendrai un exemple, c'est par exemple le marquis Lefranc de Pompignan, qui a entendu parler de Lefranc de Pompignan de nos jours.
Il y en a d'autres qu'on connaît peut-être plus, comme Joseph de Maistre, qui est resté un nom connu.
C'est beaucoup plus tardif, mais donc les gens avec lesquels Voltaire interagit ou réagit, ce sont ces gens-là. C'est Pompignan, c'est un auteur de théâtre qui s'appelle Palissot. Il y a toute une flopée de gens qu'on a de nos jours oubliés parce que on considère que les philosophes ont gagné la partie. Mais ce sont des gens qui accusent justement il y a une sorte de vulgate anti-philosophique constitué, et on accuse les philosophes de vouloir tout foutre par terre, pour dire ça vulgairement, c'est-à-dire dissoudre les liens familiaux, professer une irreligion, être cosmopolite, leur discours, qui est assez constitué, vise à dénoncer la force dissolvante des philosophes qui porte atteinte à l'ordre, en quelque sorte.
Et c'est là qu'on voit, antithèse, que Voltaire est une force de progrès et une force de modernité, comparée à eux.
Bien sûr. Ils défendent les valeurs traditionnelles, les valeurs religieuses, et aussi, on peut comprendre aussi ce discours sur l'ordre, sous la plume de Voltaire ou d'autres, aussi comme une sorte de réplique. Et c'est ce en quoi c'est intéressant de prendre en compte l'adversaire, c'est que c'est aussi une réplique. On force parfois un peu le trait, et on va se présenter comme partisan de l'ordre, précisément pour faire pièce au discours des adversaires qui accusent les philosophes d'être des fauteurs de troubles.
Donc ce contexte, on l'a un petit peu oublié quand on lit Voltaire aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez que ça pose problème dans notre lecture actuelle?
Dans une certaine mesure, si on entend contextualiser justement les textes sur lesquels on travaille, ça pose indéniablement problème, ne serait-ce que parce que il y a parfois des réponses implicites dans les textes de Voltaire qui supposent de connaître le discours de l'adversaire pour mesurer la portée de ce que Voltaire et d'autres peuvent affirmer.
Et ça, on l'a plus forcément en tête, ce qui peut créer des contresens, évidemment.
Absolument.
Alors, Voltaire, les Lumières aujourd'hui, est-ce que on doit parler du triomphe des Lumières, comme le fait Steven Pinker dans son livre paru aux Arènes en 2018, ou est-ce que au contraire les Lumières sont aujourd'hui particulièrement attaquées? Quel est votre sentiment, Olivier Ferret?
On a beaucoup accusé les Lumières d'avoir un discours universaliste européocentré. Je crois que c'est le fond des critiques qui leur sont adressées.
Et aussi d'être élitiste, justement, comme on le disait tout à l'heure.
Et d'être élitiste. À l'examen, les choses sont beaucoup moins claires. Parce que, pour en rester à Voltaire, puisque c'est le sujet de votre émission, Voltaire non seulement dit, en quelque sorte, célèbre la civilisation en tant que processus dynamique, on sort de l'état sauvage et donc la civilisation et notamment la civilisation européenne représente un ensemble de valeurs auxquelles on peut adhérer, mais il y a aussi, on le dit moins souvent chez Voltaire, une mise en crise ou une mise en question de cette civilisation. On le voyait, vous le voyez hier avec Christophe Martin à propos des voyages, ou à propos du discours du trajet de Candide, qui découvre aussi que les barbares, il y a de la barbarie en Europe. Donc il y a une vraie inquiétude aussi qui se manifeste. Alors ça se manifeste dans les contes, mais ça se manifeste aussi dans son immense ouvrage historique qui s'appelle L'essai sur les mœurs et qui justement met en perspective. Il y a cette dimension, Christophe le rappelait, de relativisme. Il y a une vraie conscience de la diversité et donc de la relativité. Et Voltaire a tout à fait nous invite à avoir conscience de la place d'où on parle.
Donc des lumières moins univoques que parfois on le dirait aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un effet un peu de balancement et cela depuis le XVIIIe siècle entre un XVIIIe siècle peut-être un petit peu libertaire suivi d'un XIXe plus puritain puis d'un XXe qui se veut émancipateur et puis aujourd'hui un XXIe qui exerce de nouveau une sorte de droit d'inventaire sur la pensée trop libérée ou considérée comme telle de cette époque-là.
Indéniablement, il y a ces effets de balancier qui se manifestent. Moi, ce qui m'inquiète davantage, c'est la dimension de réaction. Face à justement un héritage des Lumières qui est parfois contesté.
C'est-à-dire
le retour à la religion, le retour aux religieux, ce qui est quand même assez aux antipodes de l'effet d'émancipation qui était au fondement du projet des Lumières. C'est le retour à une certaine forme d'obscurantisme, aux interdits de pensée, à l'intolérance. S'il faut considérer ce mouvement-là du balancier, c'est effectivement il y a quelque chose d'assez inquiétant dans l'époque que nous connaissons.
Mais que pourrait-il aujourd'hui? Que peut un homme d'esprit? Quelle est la voix qui peut à présent se faire entendre au-dessus de toutes les autres, qui dominerait le fracas des explosions, le vacarme des machines, le babillage de la Babel des propagandes propagées de toutes parts, à toute heure et dans chaque maison? Où est le Voltaire, la voix qui s'élèvera aujourd'hui? C'est qu'il ne s'agit plus de nos jours de quelques innocents suppliciés, de victimes que l'on pouvait compter. C'est par millions aujourd'hui que l'on compte, que l'on ne compte même plus, les Calas et les chevaliers de la barre. Devant cet état des choses humaines, qui fait que l'homme se comprend soi-même de moins en moins, comme il semble moins concevoir la nature à mesure qu'il y trouve de plus puissants moyens d'action, devant ce tableau fantastique, Voltaire retrouverait-il ce sourire fameux que nous lui connaissons?
Les pulsions.
Peut-être, s'il m'est permis d'achever ainsi ce propos qui traite d'un impie, peut-être se murmurait-il cette sentence si évidente. Ils ne savent ce qu'ils font. Paul Valéry.
Les pulsions. Dans un certain rythme, les pulsions. Musique du texte, les pulsions. Dans un certain rythme, les pulsions. Musique du texte, les pulsions. Dans un certain rythme, les pulsions.
La compagnie des œuvres sur France Culture. Et oui, Voltaire est demeuré une référence. On a fait appel à lui, on le disait, durant le 19e, durant le 20e siècle, comme ici, Paul Valéry, dans un texte de 1944. Alors, on ne peut pas évoquer les Lumières, Olivier Ferré, sans parler de l'encyclopédie, dont on peut dire, pour reprendre un terme religieux et le reprendre de façon ironique, c'est un peu la Bible des Lumières, l'encyclopédie.
Oui, si on veut. En tout cas, c'est une somme. C'est un. Je préfère l'image qu'employée par les encyclopédistes eux-mêmes, c'est-à-dire d'Alembert Diderot, l'image du sanctuaire. Mm-hmm. Il s'agit de déposer la somme des connaissances accumulées. Donc il y a cette dimension de thésaurisation des savoirs, mais aussi il y a évidemment une dimension militante dans l'encyclopédie, c'est sûr.
Alors dès 1752, Voltaire au fond s'est empressé de rendre hommage à l'encyclopédie qui va, dit-il, transmettre à la postérité le dépôt de toutes les sciences et de tous les arts. Voltaire et l'encyclopédie, c'est donc d'abord l'histoire d'une amitié et d'une amitié avec d'Alembert, parce que c'est d'Alembert qui, dans le duo qu'il forme avec Diderot, est au fond le correspondant de Voltaire dans cette entreprise encyclopédique.
Absolument. Et c'est pas anodin que Voltaire prenne la défense de l'encyclopédie en 1752, parce que précisément 1752, c'est le premier coup d'arrêt de l'encyclopédie. Il y a un arrêt du Conseil d'État du roi qui supprime les deux premiers volumes.
Donc c'est par réaction finalement qu'il se joint à l'encyclopédie pour l'aider.
C'est par solidarité, absolument.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur d'Alembert, parce que la relation Voltaire-d'Alembert est tout de même importante. Il faudrait présenter ce personnage que certes on connaît un peu, mais quand même redire un petit peu qui il est.
Ben, d'Alembert est d'abord c'est un esprit particulièrement universel, puisqu'il est à la fois un mathématicien de renom, il est membre de l'Académie des sciences, et il va être élu aussi à l'Académie française.
Donc être un collègue finalement de Voltaire, qui lui aussi sera à l'Académie française.
Qui lui aussi en fait partie. Et d'Alembert, en 1772, on devient même le secrétaire perpétuel de l'Académie française. Mm-hmm. Et d'Alembert se présente comme un compagnon et aussi un disciple de Voltaire.
Donc il est plus jeune, il a 23 ans de moins que Voltaire. Il faut dire que Voltaire vit tellement âgé pour l'époque qu'il se retrouve avec beaucoup de gens qui sont plus jeunes que lui. Il y a d'autres points communs, ils sont tous les deux newtoniens par exemple.
Oui, dès l'époque des lettres philosophiques, Voltaire introduit, vulgarise en France la philosophie de Newton à une époque où justement l'Académie des sciences est encore dominée par les cartésiens. Donc il y a effectivement des objets intellectuels communs entre d'Alembert et Voltaire, mais c'est aussi ils ont aussi des valeurs et un engagement philosophique qui les rapproche.
On peut redire très vite en quoi c'est un marqueur d'être newtonien. Qu'est-ce que c'est au fond que d'être newtonien à cette époque-là?
C'est aussi, au-delà de Newton, il y a cette idée que c'est l'introduction d'une philosophie expérimentale, une philosophie qui passe par l'expérience et non pas une philosophie systématique qui conçoit un système du monde qui a pour lui l'abstraction, mais qui ne résiste pas à l'épreuve du réel et à l'épreuve de l'expérience en particulier.
Donc là aussi,
il y a une vraie révolution entre guillemets dans l'introduction justement de la philosophie de Newton. Mais Voltaire le vulgarise, mais c'est aussi Madame du Châtelet qui est pour beaucoup dans la
conversion. S'il y a besoin de conversion, mais voilà. En tout cas, en effet, elle était tout à fait de ce côté-là. Donc, Voltaire se joint à l'entreprise encyclopédique. On peut citer peut-être quelques articles pour essayer de voir ce qui l'intéresse le plus, ou peut-être ce qu'on lui demande le plus d'écrire. Alors, il rédige l'article « Esprit », l'article « Éloquence », l'article « Élégance », mais aussi l'article « Goût » et l'article « Génie ». Est-ce que tous ces mots-là n'ont pas quelque chose à voir ensemble ?
Si, il y a une certaine cohérence, mais c'est peut-être moins ce que Voltaire a envie de traiter que ce qu'on lui demande de traiter.
Mmh. Donc on pense pour lui, on pense à lui pour ces mots-là.
On pense à lui, en tout cas vous avez eu la gentillesse de rappeler l'ouvrage que j'ai fait paraître en 2016, pardon. Voltaire, pour les encyclopédistes, c'est le poète et c'est l'historien. Mmh. Alors même s'il y a une sorte de rendez-vous manqué dans les relations entre Voltaire et l'encyclopédie, lui aspire à être reconnu comme philosophe et on lui demande d'écrire des articles de morale, des articles et surtout des articles de littérature. Donc il y a un effet de décalage. Bon, il le fait brillamment, mais c'est probablement pas les sujets qui l'intéressent le plus.
Alors, nous parlions d'Alembert et de Voltaire. Ils échangent de nombreuses lettres. Il se connaît. Voltaire admire aussi un petit peu d'Alembert. Et en 1756, il l'invite au Délices, donc la maison de Voltaire à Genève, où d'Alembert passe 3 semaines parce que il va écrire, lui, un article sur Genève. Et de cet article va surgir une crise importante de l'encyclopédie. Et j'aimerais qu'on parle un petit peu de cet article, Olivier Ferré, oui. Parce que il va faire un grand scandale. Expliquez-nous un petit peu pourquoi.
Alors effectivement, vous le rappeliez, d'Alembert séjourne au Délices à l'été 1756 et l'article va paraître en décembre 57, donc l'année suivante, dans le tome 7 de l'encyclopédie. Alors, ce qui fait scandale, enfin, disons, dans un premier temps, d'Alembert dresse un portrait de Genève qui est un modèle, enfin en tout cas c'est l'expression qu'il emploie,
un modèle politique.
D'une parfaite administration politique, hein, aussi bien au niveau des finances, du gouvernement, de la justice. La question, c'est-à-dire la torture, n'a pas lieu à Genève. Les mœurs, la santé, hein, c'est un endroit où la question fait encore débat en France. Hein, l'inoculation, c'est-à-dire la vaccination, est pratiquée. Et c'est également un modèle.
C'est toujours le cas, je pense.
Oui,
la vaccination est davantage pratiquée en Suisse que chez nous.
C'est pour ça que j'y faisais allusion. Et également sur les questions religieuses. Mais justement, et c'est là où juste il y a une sorte de double provocation, pour simplifier, hein, qui explique les réactions suscitées par cet article. La première provocation, c'est que d'Alembert rappelle, hein, l'interdiction du théâtre à Genève et plaide pour sa réintroduction.
Il faut préciser que quand on dit d'Alembert, on dit aussi un peu Voltaire, parce que comme il habite chez Voltaire, c'est beaucoup Voltaire qui lui explique ce qui se passe à Genève.
Bien entendu. Non seulement Voltaire, on sent évidemment la patte du maître derrière, mais pendant son séjour au Délices, d'Alembert a eu l'occasion de croiser des savants, des pasteurs, des médecins, des banquiers. Donc il a été un petit peu introduit dans cette société-là. Et son discours qu'il tient, donc il est doublement provocateur. C'est sur la question du théâtre, puisque Voltaire a eu toutes les peines, enfin ne parvenait difficilement à faire représenter ses pièces.
Est-ce qu'on considère que le théâtre est quoi ? C'est immoral ou amoral dans la Genève calviniste ?
Voilà ce qu'écrit d'Alembert, hein. On craint, dit-on, hein, le goût de parure, de dissipation et de libertinage que les troupes de comédiens répandent parmi la jeunesse. Mm-hmm. C'est ainsi qu'il présente, hein, les fondements de cette interdiction du théâtre, mais tout en plaidant justement pour sa réintroduction avec une forme moralisée en quelque sorte du théâtre. Donc ça, c'est la première provocation, et puis il y en a une deuxième. Et c'est celle qui fait le plus de vagues, c'est qu'il parle du socinianisme parfait des pasteurs. Socinianisme, c'est la doctrine de Socin, c'est-à-dire le refus de la Trinité, le rejet des mystères. Et d'Alembert est pas loin de dire qu'au fond, la religion des pasteurs, c'est une sorte de déisme. Et ça suscite évidemment un tollé, y compris de la part de la compagnie des pasteurs, puisque cet aspect-là de l'article est désavoué, il y a un démenti officiel de la compagnie des pasteurs en février 58, c'est-à-dire l'année qui suit, enfin dans la l'immédiate actualité de la publication du tome 7 de l'encyclopédie.
Et c'est là que Rousseau va entrer en scène. On va en parler avec vous, Olivier Ferré, juste après une lecture par Pierre Vernier d'une lettre de Voltaire.
À Jean le Rond d'Alembert. L'excès de l'orgueil et de l'envie a perdu Jean-Jacques, mon illustre philosophe. Ce monstre ose parler d'éducation, lui qui n'a voulu élever aucun de ses fils et qui les a mis tous aux enfants trouvés. Il a abandonné ses enfants et la gueuse à qui il les avait faits. Il ne lui a manqué que d'écrire contre sa gueuse, comme il a écrit contre ses amis. Je le plaindrai s'il est pendu, mais par pure humanité. Car je ne le regarde personnellement que comme le chien de Diogène, ou plutôt comme un chien descendu d'un bâtard de ce chien. Je ne sais pas s'il est abhorré à Paris comme il l'est par tous les honnêtes gens de Genève. Soyez sûr que quiconque abandonnera les philosophes fera une fin malheureuse.
Alors c'est là qu'il faut voir l'entrée en scène de Rousseau et revenir un petit peu en arrière, parce que Rousseau est quelqu'un qui collabore également à l'encyclopédie, même si il va, comme vous allez nous le raconter, mettre à critiquer cet article Genève dont on parlait tout à l'heure. Alors reprenons peut-être un petit peu l'histoire de Voltaire et de Rousseau, qui commence par une amitié, ou en tous les cas une admiration de Rousseau pour Voltaire.
Absolument. Rousseau est tout à fait un admirateur de Voltaire. Il rend hommage à l'écrivain de talent.
Dans sa première lettre, il dit « Monsieur, il y a 15 ans que je travaille à me rendre digne de vos regards. »
Oui. Mais les choses se gâtent par la suite. Mais de fait, le début est assez irénique entre eux.
Oui. Mais l'amitié succède. À l'amitié succède la querelle.
Et succède, oui, la querelle et toute une série, là aussi, de y a eu des gestes de provocation de part et d'autre. Hein. Il faut, on peut assez facilement comprendre un peu la position de Rousseau qui est la façon est relativement difficilement lisible pour beaucoup de philosophes. Vous rappeliez effectivement sa participation à l'encyclopédie. On lui demande d'écrire des articles donc dans l'encyclopédie, dictionnaire raisonné des arts, des sciences et métiers. Donc il est parmi les tout premiers à contribuer pour les articles de musique en 1750. Et 1750, c'est aussi l'année où il écrit le discours sur les sciences et les arts, où il explique que la société, les sciences et les arts ont corrompu la société. Donc oui, il y a quelque chose, et on sent bien que, y compris les encyclopédies, sont assez embarrassés lorsqu'il faut bien qu'ils évoquent ce texte.
Mais alors bon, Voltaire au départ, prend ça un petit peu à la légère, y compris d'ailleurs quand Rousseau l'attaque sur son poème sur le désastre de Lisbonne. Bon, il n'est pas content, mais enfin, ça va, il passe outre. Pour lui, Rousseau finalement n'est pas si important que cela, au fond, Olivier Ferré, au départ.
C'est potentiellement aussi un allié, parce que le discours de, je crois que Christophe Martin le rappelait hier, Voltaire a une profonde admiration pour la profession de foi du viscard savoyard. Donc Rousseau aurait pu être un allié des philosophes s'il ne les avait pas combattus. Ouais. Ou s'il n'avait pas rompu les ponts avec eux. Il rompt les ponts avec eux, on en parlait tout à l'heure, dans la réponse aussi à D'Alembert, la lettre à D'Alembert sur les spectacles.
Voilà. Qui est assez incompréhensible, parce que donc là, il considère que le théâtre, finalement, encore une fois, était un peu amoral, alors que lui-même a écrit des pièces de théâtre, donc on comprend assez mal sa position.
C'est aussi le discours de Voltaire qui, par la caricature, montre l'homme au paradoxe, ou le construit en homme au paradoxe, c'est-à-dire celui qui dit le contraire de ce qu'il fait. Mm-hmm. Et donc il y a cette rupture aussi avec Diderot, qui est importante dans la lettre à D'Alembert. J'avais un ami. Donc c'est une rupture forte. Et puis la vraie rupture, alors il y a un point de bascule entre dans les relations entre Voltaire et Rousseau. Il me semble que c'est 1763, c'est au moment où Rousseau justement qui est dans le qui est poursuivi pour Émile, qui est poursuivi pour le contrat social, écrit un ouvrage qui s'appelle Les Lettres écrites de la montagne, dans lequel c'est la lettre 5. Il s'en prend d'abord de manière non nominative, mais sur le mode du suivez mon regard, hein. Mm-hmm. Et il s'en prend aux auteurs adroits, hein, et lui se présentant comme un auteur maladroit, c'est-à-dire celui qui assume ses écrits, celui qui les signe et qui en répond. Mmh. Alors que d'autres, suivez mon regard, hein, ont coutume de désavouer leurs œuvres et ricanent dans les soupers, hein, d'œuvres qui sont éventuellement poursuivies. Alors que Rousseau, lui, s'engage et solidaire son œuvre et au point d'en être responsable, et ce qui lui vaut d'ailleurs d'être décrété de prise de corps.
Bah, il y a un côté, pardonnez-moi, rigoureux, oui, du côté de Rousseau, qui incarne d'ailleurs beaucoup sa pensée, alors, oui, que chez Voltaire, en effet, bon, on est plus capable de tolérance, justement, et cette tolérance implique une certaine souplesse.
Oui, et puis il y a aussi effectivement cette manière de ne pas signer, ses œuvres et de se mettre à couvert, en somme, de toute forme de poursuite, hein, même si tout le monde sait bien que ça vient de Voltaire. Mais justement, le faux pas dans cette cinquième lettre, c'est que Rousseau dénonce Voltaire comme l'auteur du Sermon des 50. Le Sermon des 50, c'est un ouvrage antichrétien qui a toujours été désavoué par Voltaire. Et là, cette manière de rendre public, hein, d'associer le nom de Voltaire à ce texte qui jusque-là était clandestin et en tout cas toujours été désavoué hautement, hein, par Voltaire, ça c'est la ligne rouge à ne pas franchir.
Est-ce qu'on peut, comme on l'a fait tout à l'heure pour les Lumières, actualiser aujourd'hui les pensées de l'un et de l'autre et finalement se rendre compte qu'on a, du côté des descendants, entre guillemets, de Voltaire, un amour, je ne sais pas, du progrès technique, un goût peut-être pour le confort, mais aussi pour la satire, pour le rire, et de l'autre côté, une idée de la pureté, de la simplicité. Est-ce qu'on retrouve toujours aujourd'hui des rousseauistes et des voltairiens?
Oh, ça se voit, y compris dans le monde des chercheuses et chercheurs sur le XVIIIe siècle. Il est rare d'arriver à la fois à être un bon connaisseur de l'un et de l'autre. Il y a au moins une exception. Vous l'avez invité lundi, c'est François Jacob qui a travaillé de manière aussi approfondie sur Voltaire que sur Rousseau.
Nous sommes dans la synthèse ici, à la Compagnie des œuvres, comme vous pouvez le voir.
Absolument.
À Jean le Rond d'Alembert. Je vous ai déjà mandé que j'avais écrit à Diderot, il y a plus de 6 semaines, premièrement pour le prier de vous encourager sur l'article Genève, en cas que l'on eût voulu vous intimider, secondement pour lui dire qu'il faut qu'il se joigne à vous, qu'il quitte avec vous, qu'il ne reprenne l'ouvrage qu'avec vous. Je vous le répète, c'est une chose infâme de n'être pas tous unis comme des frères dans une occasion pareille. J'ai encore écrit pour que Diderot me renvoie mes lettres, mon article histoire, les articles auteur, hautain, hémistiche, heureux, habile, imagination, idolâtrie, etc. Je ne veux pas dorénavant fournir une ligne à l'encyclopédie. Ceux qui n'agiront pas comme moi sont des lâches, indignes du nom d'homme de lettres, et je vous prie de le leur signifier de ma part. Mais je veux absolument que Diderot remette mes lettres et mes articles chez M. d'Argental, en un paquet bien cacheté. Je ne sais pas ce qui peut autoriser son impertinence de ne me point répondre, mais rien ne peut justifier le refus de me restituer mes papiers. Il faut avoir un style net et un procédé net. Les Russes sont à Königsberg. L'année 1758 vaudra bien la dernière. D'ailleurs, on ne fait que mentir. La fessade et le carcan de l'abbé de Prades sont des contes, mais il est triste qu'on les fasse. Quiconque est là s'expose au moins à faire dire qu'il est fessé. Félicitaire vivit, cui libéré vivit. Que fait Jean-Jacques chez les Bataves? Que va-t-il imprimer? Sa rentrée dans le giron de l'église de Genève?
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et cette lecture toujours de Pierre Vernier. Pourquoi Olivier Ferré, Voltaire, souhaite-t-il à un moment donné qu'on lui renvoie ses articles? Est-ce que vous pouvez remettre en contexte la lettre qu'on vient d'entendre?
Parce qu'on est dans la tourmente de ce qui va conduire à l'interdiction de l'encyclopédie. Sous l'effet justement, et c'est aussi pour ça qu'il est important de rappeler leur existence, hein, sous l'action assez puissante, et ils ont des alliés au niveau du pouvoir, hein, des anti-philosophes, l'encyclopédie finit par être interdite, en tout cas officiellement interdite. Mmh. On révoque son privilège. Et c'est dans ces contextes-là, hein, les articles cités ne vont paraître... Finalement, ils vont paraître dans l'encyclopédie, mais uniquement en 1765, c'est-à-dire au moment où l'encyclopédie qui se poursuit dans une semi-clandestinité va pouvoir être... Et le choix est fait de publier les derniers volumes ensemble. Donc il y a cette idée de l'encyclopédie est morte. À partir du moment où Diderot, et c'est aussi à son honneur, hein, Diderot refuse, et il y a eu plein de perches tendues, notamment pour que l'encyclopédie se poursuive à l'étranger, et Diderot tient bon et dit non, on continue et on termine l'encyclopédie. Alors d'Alembert part, effectivement, en 1758, d'Alembert fait défection, il n'est plus l'éditeur, enfin co-éditeur avec Diderot, hein, et Diderot poursuit l'entreprise contre vents et marées jusqu'à l'achèvement, hein, en 1765.
Alors on a dit hier comment Voltaire avait été à un moment déçu par ce gros fatras, entre guillemets, de l'encyclopédie, et comment il poursuit finalement, grâce notamment aux lettres philosophiques, un travail qu'il veut plus personnel. Vous avez donc, on l'a dit, édité les lettres philosophiques de Voltaire. C'est présenté souvent aussi ces lettres philosophiques comme la première bombe lancée contre l'ancien régime. En quoi, et puis au fond, est-ce que finalement Voltaire a conscience ou idée qu'il s'attaque là à un régime qui sera bientôt renversé par la Révolution? Évidemment, il ne pouvait pas le savoir, mais quelle peut être sa pensée, sa réflexion autour de cette éventualité?
Alors, je pense que vous voulez parler du dictionnaire philosophique.
Alors, c'est bien possible, mais c'est dans le rapport à la Révolution. Peut-être que je me trompe, en effet.
Non, parce que en fait, de fait, vous avez raison sur ce que critique Voltaire dans le... C'est fait que c'est absolument... l'encyclopédie est un gros fatras. Hein. Enfin, en tout cas, c'est 17 volumes, quand même, in folio. Il critique aussi la présence de déclamations, etc., de longueur, hein, et aussi une absence de, enfin, une prudence, une trop grande prudence, hein, des encyclopédistes par rapport à ce que lui présente dans le dictionnaire philosophique, hein, sous une forme incisive, ramassée et portative. Hein, le premier titre du dictionnaire philosophique, c'est dictionnaire philosophique portatif. Alors, le rapport à la Révolution, il est pas aisé à établir. Hein, Voltaire
et dans les lettres philosophiques non plus.
Non, Voltaire, comme beaucoup de ses contemporains, n'avait pas la moindre idée que
non, ça bien entendu, mais qu'est-ce qu'il pouvait penser au fond du régime de la monarchie?
Voltaire est soutient une forme de monarchie éclairée. Il est monarchiste. D'un point de vue politique, ce qui n'empêche pas de critiquer les abus de la monarchie, les dérives de la monarchie, hein, ces dérives despotiques, hein, de la monarchie, mais politiquement parlant, c'est un monarchiste, donc il n'a pas la moindre idée que le régime puisse être balayé.
En se revendiquant de lui, en plus.
En se revendiquant de lui, oui. Oui, bien sûr, parce qu'il y a effectivement le livre de chevet des révolutionnaires, c'est quand même le contrat social. Mmh. Ça reste Rousseau, mais on voit effectivement le nom de Voltaire réapparaît, ressurgit, y compris dans les textes de 89. Mais ce qui est retenu de Voltaire, et c'est ça qui est intéressant aussi dans la postérité, c'est l'homme qui a défendu et réhabilité Jean Calas. D'ailleurs, vous le rappeliez au début en parlant justement de la cérémonie du du Panthéon. Hein. Ce qu'on célèbre, c'est le défenseur de Calas, de la barre, etc. Donc c'est l'homo Calas. Accessoirement, ce qu'on rejoue aussi à la Révolution, c'est son théâtre.
Oui.
Hein. Pas n'importe lequel. La mort de César, Brutus, autrement dit, la mise à mort des tyrans. Hein, donc cette relecture hein, révolutionnaire a posteriori du théâtre de Voltaire, qui a été étudié par ailleurs par Pierre France. Hein, c'est un phénomène assez intéressant, et ça repose aussi partiellement sur un effet de contresens, mais en gros on actualise hein, en fonction du contexte.
Alors Olivier Ferré, puisque vous nous entraînez sur la route, sur le chemin du Voltaire engagé, racontons peut-être plus en détail, parce qu'on ne s'y est pas vraiment arrêté encore, l'anecdote, qui n'en est pas une, enfin l'histoire du chevalier de la barre, histoire fort dramatique, qui s'est terminée par une exécution en 1766, et qui fera dire à ce même chevalier de la barre: je ne croyais pas qu'on pût faire mourir un gentilhomme pour si peu de choses. Mais pour quel peu de choses? Racontez-nous cela, Olivier Ferré.
Alors c'est effectivement, enfin, l'affaire Calas est très connue, l'affaire Labarre les moins. Tout part en fait d'un fait divers qui est en août 1765, on constate à Abbeville qu'un crucifix a été mutilé sur le pont. Et donc qui est coupable, qui est responsable de on se met vite à soupçonner tout un ensemble de jeunes nobles,
de très jeunes même, hein, parce
très jeunes nobles.
Il y en a certains qui n'ont que 15 ans.
C'est ça. On appellerait ça des sauvageons, n'est-ce pas? Donc il y a le chevalier de la barre qui a 20 ans. Le Gaillard des Talondes qui a 21 ans, il y a un certain Moinel qui a 15 ans, effectivement. Et donc ils se voient accusés. Alors on les accuse, on dit qu'il n'y a jamais de fumée sans feu, parce que ce sont des jeunes gens un peu turbulents qui
faisaient la fête,
qui chantaient des chansons de corps de garde, summum de l'outrage, ne se seraient pas découverts au passage d'une procession du Saint-Sacrement. Mmh. Donc tout est en quelque sorte réuni hein, pour que il soit non seulement soupçonné mais rendu coupable. Il y a une procédure hein, qui est lancée pour recueillir des témoignages. Tout ça débouche sur une plainte pour profanation, c'est-à-dire pour sacrilège, et une plainte aussi pour impiété, pour blasphème. Et le chevalier de la barre se voit condamné et exécuté, comme vous l'avez rappelé. Après avoir été torturé. C'est-à-dire, il est condamné à la question, c'est-à-dire à la torture. Il est condamné à faire amende honorable. Il a la langue tranchée. On le décapite et il est brûlé.
Alors, il semblerait quand même qu'il ait réussi à se moquer un petit peu de son bourreau. Mais ça relève de l'anecdote. Écoutons ce que Voltaire en dit au comte et à la comtesse d'Argental quelques jours après cette exécution, dans une lettre du 7 juillet 1766.
Qui croirait que la condamnation de 5 jeunes gens de famille à la plus horrible mort put être le fruit de l'amour et de la jalousie d'un vieux scélérat d'élu d'Abbeville. L'atrocité de cette aventure me saisit d'horreur et de colère. Je me repens bien de m'être ruiné à bâtir et à faire du bien dans la lisière d'un pays où l'on commet de sang-froid et en allant dîner des barbaries qui feraient frémir des sauvages ivres. Et c'est là ce peuple si doux, si léger et si gai. Arlequins anthropophages, je ne veux plus entendre parler de vous. Courez du bûcher au bal et de la grève à l'opéra comique. Rouez Calas, pendez Sirvin, brûlez 5 pauvres jeunes gens qu'il fallait, comme disent mes anges, mettre 6 mois à Saint-Lazare. Je ne veux pas respirer le même air que vous.
Donc cette affaire révolte Voltaire, Olivier Ferré, qui paraît-il n'endort plus. Qu'est-ce qu'il en fait au fond, et en quoi est-ce que il cherche à remuer ciel et terre pour rendre justice, même si les choses sont un petit peu déjà faites?
Les choses sont déjà faites, mais il peut au moins sauver le co-acolyte qui lui a eu la précaution de s'enfuir en Prusse, qui est d'Étalon, qui lui a été condamné juste seulement par contumace parce qu'il n'était pas là. Mais l'affaire a différentes portées. Il y a une dimension locale. On l'entendait hein, dans la lettre qui a été lue. Hein. Le vieux scélérat des lieux de la ville. Mm-hmm. Ce sont des animosités personnelles des protagonistes de la justice d'Abbeville, qui ont aussi conduit à la condamnation de la barre. Ça, c'est une version un peu locale, avec cette idée aussi qu'il y a des conflits d'intérêts qui seraient incompatibles avec un exercice impartial de la justice. De là, en somme, une sorte de deuxième enjeu ou deuxième portée de cette affaire qui engage une réflexion sur le fonctionnement de la justice. Il y a une vraie dimension juridique dans le combat que mène Voltaire à ce moment-là. C'est la procédure, elle est parfaitement conforme au cadre législatif d'Ancien Régime. Il n'y a pas eu d'erreur de procédure. Mais justement, c'est l'occasion d'interroger cette procédure, de soulever le problème de la criminalisation des actes religieux. C'est-à-dire, en somme, la collusion du juridique et du religieux qui est au centre de la réflexion justement de Voltaire. C'est aussi poser le problème qui le préoccupe depuis la lecture de Beccaria et de son traité des délits et des peines, qui est le problème de la proportionnalité des peines. Mm-hmm. Est-ce qu'on va mettre à mort quelqu'un pour avoir chanté des chansons de corps de garde et avoir eu des gestes irreligieux?
Et puis aussi l'hypocrisie, parce que au fond tout le monde sait bien que la peine est disproportionnée, mais personne ne souhaite le dire.
Bien sûr. Et puis il y a une dernière dimension dont on n'a pas encore parlé, qui est une dimension personnelle, puisque au cours des perquisitions qui ont eu lieu au domicile du chevalier de la Barre, on a retrouvé un exemplaire du dictionnaire philosophique. Mmh. Et ce dictionnaire philosophique sera symboliquement brûlé sur le bûcher de la Barre. Donc là, il y a aussi Voltaire est personnellement impliqué dans cette affaire, ce qui explique aussi l'ampleur, le retentissement. C'est une affaire absolument horrible qui engage un jeune homme pour des faits qu'on peut juger condamnable par quelques mois de prison. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il essaie de laisser entendre. En tout cas, pas
6 mois de prison auraient suffi, voilà. Dit-il en substance.
Hein. Voilà.
Alors,
mais il est impliqué.
Il met en branle tout son réseau de correspondants, toute la machine Voltaire est mis à la disposition de cette affaire.
Absolument. Dans la correspondance, il y a une abondante correspondance. Vous en avez lu, vous en avez entendu un extrait. Il écrit une relation de la mort du chevalier de la Barre, qu'il va réutiliser dans le cadre des questions sur l'encyclopédie. Hein. L'article justice des questions sur l'encyclopédie comporte une section qui est une reprise de cette relation de la mort du chevalier de la Barre. Dans la dernière édition du dictionnaire philosophique en 1769 apparaît un article torture où il est question de la barre. Mm-hmm. Donc il y a effectivement ce dont Voltaire est passé maître, l'orchestration d'une campagne médiatique autour de cette affaire.
Est-ce qu'il ne va pas y avoir un autre retentissement personnel, celui-là, sur l'état d'esprit de Voltaire, dont on se rend compte que peut-être finalement il est un peu plus désespéré qu'on ne le croit. Est-ce qu'il ne va pas l'avouer aussi à cette occasion-là?
Il est sûr que cette affaire a eu un retentissement fort sur lui-même, et en particulier, ne serait-ce que parce qu'il était personnellement impliqué par le truchement d'une de ses œuvres. Mmh. Et de fait, dans certains contes, des textes qu'on a coutume de classer dans les contes, un conte s'appelle L'Aventure indienne, par exemple, qui se termine par « sauf qui peut ». Il y a un moment où on se dit que d'abord rien n'est acquis. C'est aussi une manière de dire que, alors qu'on pensait que justement le combat contre le fanatisme, contre l'obscurantisme, pouvait avoir été partiellement gagné, cette affaire prouve qu'il n'en est rien.
Bon, c'est sur cette note un tout petit peu triste qu'on va terminer aujourd'hui, mais demain, ça ira sans doute mieux, puisqu'on va évoquer l'épisode de Ferney. Merci beaucoup, Olivier Ferré, d'être venu
Merci
nous parler aujourd'hui de l'encyclopédie et aussi donc du Chevalier de la Barre. Votre livre Voltaire dans l'encyclopédie a été publié en 2016 aux éditions de la Société Diderot à Langres. La compagnie des œuvres, c'est Laurence Genepin, Laurence Millet, Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Romain Billet, Salomé Taforo et Souad Boukorza.